Et le journal vous est présenté par Anaïs Feuga. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Vincent Lambert est mort. L'homme de 42 ans s'est éteint ce matin à Reims. Ses traitements qui le maintenaient en vie avaient été arrêtés depuis la semaine dernière. Le procureur de Reims ouvre une enquête. La fin de vie et son encadrement par la loi posent toujours question. François de Rugy à Matignon, le ministre de l'Environnement mis en cause après les révélations de Mediapart sur ses agapes lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Il a dû interrompre sa visite à Niort. En Italie, la Ligue du Nord de Matteo Salvini a-t-elle bénéficié de financements russes ? Des écoutes relancent les soupçons. Enfin, première vraie étape de montagne sur le Tour cet après-midi avec 7 ascensions vosgiennes. Dylan Teuns remporte l'étape à l'instant. Alaphilippe perd son maillot jaune. Nuages et éclaircies demain, prévision météo à la fin de ce journal.
France Inter.
Quelle place pour le deuil après la mort ce matin de Vincent Lambert, le quadragénaire tétraplégique et en état végétatif est décédé au CHU de Reims. Le 2 juillet, son médecin avait commencé à arrêter les traitements qui le maintenaient en vie depuis près de 11 ans. Son neveu est soulagé, il fallait arrêter ce qu'il appelle les coups de théâtre à répétition car la famille, on le sait, s'est déchirée. Sa mort est un crime d'état, disent ses parents qui réclamaient son maintien en vie à tout prix et mettent en cause le médecin. La famille qui devra encore attendre pour faire son deuil, car que la justice passe une dernière fois sur cette affaire. Bonsoir Rémi Brancato, vous êtes à Reims.
Bonsoir Anaïs, bonsoir à tous.
Car le procureur de Reims ouvre une enquête pour recherche des causes de la mort, mais ce n'est pas une enquête pour meurtre, dit-il.
Oui, les parents de Vincent Lambert ont bien porté plainte vendredi dernier pour tentative de meurtre après l'arrêt des traitements de leur fils il y a 9 jours. Mais ce n'est pas une enquête pour meurtre, couvre le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette, aujourd'hui. Il l'a annoncé aux parents, donc, mais aussi à l'épouse, Rachel, et aux frères et sœurs présents ce matin au CHU, moins d'une heure après le décès.
Ne pas ouvrir d'enquête aurait pu être interprété comme un soutien apporté au personnel soignant, certains ce matin ayant parlé de crime d'État. Ouvrir une enquête du chef de meurtre aurait également pu être interprété comme étant la condamnation a priori du processus déclenché dans le cadre de la loi Leonetti.
Le procureur promet la transparence à la famille sur les résultats de cette enquête pour recherche des causes de la mort d'ici quelques semaines ou mois, dit-il. Indispensable selon lui au regard du contexte du conflit ouvert dans cette famille déchirée. Et pour lever tous les doutes, il leur donne une autopsie du corps de Vincent Lambert.
J'ai souhaité que cette autopsie n'ait pas lieu sur Reims, dans la mesure où l'Institut médico-légal de Reims dépend du centre hospitalier, que ce centre hospitalier a aussi été mis en cause par certains membres de la famille de Vincent Lambert. C'est la raison pour laquelle l'autopsie aura lieu à l'Institut de médecine légale de Paris. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il y ait 2 experts qui procèdent à cette autopsie.
Et cette autopsie sera pratiquée dès demain matin dans la capitale. Il y a environ 1h30. Ici, devant le CHU de Reims, nous avons vu partir un véhicule des pompes funèbres, escorté par 2 motards et une voiture de police. Après cette autopsie, demain, le corps de Vincent Lambert sera restitué à son épouse, Rachel, qui était aussi sa tutrice légale.
Rémi Brancato à Reims avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Pour le Vatican, la mort de Vincent Lambert est une défaite pour notre humanité. Difficile frontière entre l'acharnement déraisonnable et l'obligation de soigner, c'est l'une des interrogations de la médecine actuelle. Écoutez le docteur Vincent Morel, chef de service de soins palliatifs du CHU de Rennes.
Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les progrès de la médecine posent de nouvelles questions et engendrent des situations qui étaient inconnues il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que les questions qui se posent aujourd'hui à la médecine, ce n'est pas de faire un diagnostic, ce n'est pas de mettre en œuvre des traitements, ça on sait relativement le faire. Les vraies questions nouvelles qui se posent à la médecine, c'est est-ce qu'elle doit tout mettre en œuvre parce qu'elle en a les moyens techniques ? Et donc, est-ce qu'elle doit tout mettre en œuvre pour qu'un patient continue à vivre alors même que sa situation de vie correspondrait à un acharnement thérapeutique? C'est une vraie question éthique qui se pose à la médecine globalement. Comment faire avec les progrès qui ont été réalisés de façon à ce que ces progrès soient toujours dans l'intérêt du patient et ne conduisent pas à des situations qu'il aurait refusées.
Le docteur Vincent Morel répondait à Daniel Messager. Vincent Lambert aura été au cœur d'un imbroglio judiciaire de plus de 6 ans sans avoir jamais pu s'exprimer sur son propre sort, d'où l'importance des directives anticipées, concrètement écrire à l'avance ses dernières volontés qui s'imposent aux médecins selon la loi sur la fin de vie. Il n'est pas prévu que ce sujet revienne sur la table en septembre à l'occasion de la révision des lois bioéthiques, ce qui divise pourtant la majorité. À l'Assemblée nationale, Maxence Lambrecq.
L'an dernier, un tiers des députés de La République En Marche signaient une tribune pro-euthanasie, parmi eux Barbara Pompili.
C'est le moment d'en débattre, oui, parce que ça fait longtemps qu'on débat de ce sujet-là. Si on pouvait l'intégrer dans la loi bioéthique, ce serait une bonne chose. Et on voit avec la loi Claeys-Leonetti que quelque part, on s'est arrêté au milieu du chemin.
Inutile d'aller plus loin, répond son collègue Jean-François Cesarini. Il plaide pour une meilleure application de la loi Claeys-Leonetti avec la promotion des directives anticipées.
Je le dis aux Français, il faut le dire encore plus, faites des déclarations préalables, faites-le. Aujourd'hui, la loi Leonetti le permet et ça permet de résoudre énormément de problèmes. Alors, une loi supplémentaire, dans ce cas-là, n'est pas nécessaire parce qu'il y a le cadre, la possibilité d'avoir réglé cette affaire autrement.
Réticence aussi chez le député En Marche, Bruno Ketel.
Aujourd'hui, c'est recueillement et respect pour la dépouille et sa famille. C'est pas le moment. Tout simplement.
Et la présidente de la commission des lois est sur la même ligne, Yael Braun-Pivet.
Moi, j'ai toujours indiqué que j'étais pour revoir la législation en la matière, mais nous le ferons probablement en temps utile et certainement pas en ce moment, dans ces circonstances-là. Et à mon sens, la loi bioéthique est un moment trop prématuré pour le faire. Ça n'est pas une question bioéthique, c'est une question de société. Donc à mon sens, ça n'est pas le lieu pour faire cela.
En réalité, si ce n'est pas à l'agenda, c'est parce qu'Emmanuel Macron n'a pas encore tranché cette question.
La fin de vie, l'évolution de la loi et l'affaire Vincent Lambert, on en parle dans le téléphone sonne ce soir. 6 ans de bataille judiciaire, c'est aussi à lire sur franceinter.fr. François de Rugy n'est toujours pas ressorti du bureau du Premier ministre. Le ministre de l'Environnement en position intenable après les révélations de Mediapart sur ses dîners amicaux ou professionnels à grands frais alors qu'il était président de l'Assemblée nationale. Son déplacement à Niort aujourd'hui a tourné au chemin de croix. Difficile en effet de parler de ressources en eau au milieu des cris de François Démission. Noémie Guillotin de France Bleu Poitou a suivi cette visite écourtée.
À peine arrivée, la discussion s'engage sur les retenues d'eau entre deux dégustations de fromage de chèvre des Deux-Sèvres.
J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de tabou autour du stockage de l'eau.
Puis autour d'une table, François de Rugy écoute les signataires du protocole d'accord sur la création de 16 bassines, tout en se penchant souvent sur son téléphone, sans doute pas pour parler gestion de l'eau. Devant les micros, le ministre maintient qu'il est pour la transparence.
Si avec des personnalités extérieures, comme la déontologue de l'Assemblée par exemple, il y avait des vérifications à faire, je suis tout prêt à m'y livrer. Et s'il y avait eu des erreurs d'appréciation de ma part, je serais tout prêt également à les corriger.
À l'heure du déjeuner, un comité d'accueil attend le ministre. Tous les accès à la préfecture sont bloqués par les forces de l'ordre. Une cinquantaine d'antibassines s'arrêtent au pied du donjon de Niort pour pique-niquer.
Il nous promet un désert asséché, à perte de vue. Mais nous, on n'est pas rancunier, donc on lui offre quand même le dessert.
Cédric, du collectif Bassine, non merci.
On l'a invité par les canaux habituels à nous recevoir en délégation. Il a refusé, donc on s'est invité quand même. Et on lui demande de venir pour discuter un petit peu de sa position et de l'avenir des bassines en France.
Des militants qui ne verront pas le ministre, repartis de la préfecture directement sur Paris.
Et François de Rugy a donc quitté les Deux-Sèvres en tout début d'après-midi. Il est depuis 16h30 à Matignon, chez le Premier ministre. En a-t-on vraiment fini avec l'affaire Tapi ? On apprend aujourd'hui que la Cour de justice de la République enquête sur l'ex-ministre du budget à l'époque de l'arbitrage. Elle se penche sur le coup de pouce fiscal qu'Éric Woerth a accordé à l'homme d'affaires. 11 millions d'euros d'impôts payés contre 100 millions si les recommandations du fisc avaient été suivies. Oui, aux tomates bio produites dans des serres chauffées. Le Conseil national de l'agriculture biologique a toutefois trouvé un compromis. Les serres devront être chauffées grâce à de l'énergie renouvelable à partir de 2025 et on ne pourra pas trouver en rayon de légumes d'été bio entre le 21 décembre et le 30 avril. À l'étranger, en Italie, encore un dirigeant embarrassé par des écoutes téléphoniques. Cette fois, c'est Matteo Salvini qui doit s'expliquer sur des enregistrements audio que le site américain BuzzFeed prétend détenir. On y entendrait un de ses proches négocier un accord sur comment dérouter des dizaines de millions de dollars du pétrole russe vers son propre parti, la Ligue du Nord. À Rome, Mathilde Imberti.
L'affaire avait été révélée par l'hebdomadaire italien L'Espresso cet hiver. Elle rebondit avec la retranscription in extenso d'une discussion à Moscou entre des hommes d'affaires russes et l'ancien porte-parole de Matteo Salvini sur le site internet BuzzFeed. Le correspondant en Europe de ce site américain s'est procuré l'enregistrement. Nous sommes en octobre 2018, dans un palace de Moscou. Les échanges portent sur un accord pour la livraison de pétrole russe, accord en marge duquel une caisse noire pouvait être constituée afin de financer la Ligue, une caisse estimée à 58 millions d'euros par le site BuzzFeed. Ces soupçons soupçons de financement caché ont conduit le parquet italien à ouvrir une enquête, alors que sur la scène politique, le calendrier s'accélère. Le Parti démocrate, parti d'opposition, réclame l'audition du leader de la Ligue devant le Parlement au plus vite. Matteo Salvini en retour nie tout échange financier avec la Russie. Je n'ai pas perçu un rouble, un euro, un dollar ou même un litre de vodka en guise de financement, jure-t-il. Voilà une affaire embarrassante pour le parti qui doit déjà rembourser quelques 49 millions d'euros à l'État italien, une dette créée par Umberto Bossi, l'ancien patron de la Ligue, et son trésorier est issu d'une fraude caractérisée il y a 10 ans. De Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Du jamais vu en Grèce, une tornade et des orages de grêle ont complètement dévasté la région au sud de Thessalonique. Paysage de désolation, coulée de boue, arbres couchés, il aura suffi de 20 minutes hier soir. Au moins 7 personnes sont mortes, des dizaines d'autres ont été blessées. Et puis dans le sud et l'est de la Chine, là c'est la pluie qui fait des dégâts. Les précipitations les plus abondantes jamais enregistrées en un demi-siècle, maisons écroulées, cultures ravagées, 80 000 personnes évacuées. Et on s'attend à d'autres précipitations. Le Yangtze, le plus long fleuve d'Asie, devrait dépasser sa cote d'alerte à la fin de la semaine. Allez, première arrivée au sommet dans ce Tour de France version 2019. On n'est pas encore dans les cols des Alpes, mais les 7 ascensions vosgiennes très raides, dont 3 côtes de première catégorie, ont tourné à l'instant à l'avantage du Belge Dylan Teuns. Et vous êtes aux planches des belles filles, Fabrice Rigobert.
Oui, le maillot jaune change d'épaule, c'est aussi ce que l'on retiendra ce soir. Il s'est battu jusqu'au bout pour sauver son beau maillot jaune, mais pour 6 petites secondes avec les bonifications, il doit l'abandonner. Julien Alaphilippe a vu la première place du classement général lui échapper dans cette étape remportée par Dylan Teuns, juste devant l'Italien Giulio Ciccone. Et c'est d'ailleurs l'Italien, membre de l'échappée du jour, qui lui ravit cette précieuse tunique au sommet de la super planche des belles filles, où les coureurs sont apparus comme scotchés à la route sur les pentes à 24 dans les 350 derniers mètres. Il est allé au bout de ses forces, il a attaqué avant de suivre le gallois Geraint Thomas, puis le local de l'étape Thibaut Pinot, brillant cinquième dans la roue du vainqueur sortant Geraint Thomas, qui a pris l'ascendant de son côté sur son coéquipier colombien Egan Bernal. Thibaut Pinot, désormais septième du classement général à 58 secondes du nouveau maillot jaune, après cette étape où Romain Bardet, et c'est l'autre information, a craqué dans les 900 derniers mètres, abandonnant plus d'une minute à tous les favoris et sans doute avec ses chances de victoire et de podium à Paris.
Fabrice Rigobert en direct depuis les Vosges, et le Tour redescend demain 230 km entre Belfort et Chalon-sur-Saône. La tête et les jambes côté ludique cette fois, c'est partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse organisée par le Centre National du Livre, avec par exemple ce parc d'attractions littéraires à La Courneuve en Seine-Saint-Denis où s'est rendu Ilana Morioussef.
Comment il fait le kangourou quand il marche? Comme ça. Quand il bondit.
Le temps d'une matinée, l'auteure et illustratrice Hélène Rajkak fait jouer les enfants à l'un des jeux qu'elle a créé avec son co-auteur Damien Laverdin.
On est parti sur des jeux documentaires, c'est-à-dire qu'on va découvrir les empreintes des animaux et puis on va s'amuser à reproduire la démarche d'un animal. On met les bras un petit peu en avant et hop, on bondit, allez, allez.
Et ça marche.
Le dernier, qu'est-ce que c'est?
Le loup. Un lion.
Ça pourrait ressembler
à un tigre.
Non, pas du tout.
Une tortue.
La tortue.
Le plus que j'aimais, c'était la tortue. Ça faisait trop rire.
Moi, qu'est-ce que j'ai préféré? C'était la souris.
Bah, moi, c'était le cheval.
D'autres auteurs jeunesse ont créé des jeux sur le thème de l'eau, du feu ou de l'air à la demande de Sylvie Vassallo, fondatrice de ce parc d'attractions littéraires.
C'est un parc unique en son genre puisqu'il permet à des enfants qui ne sont pas forcément familiers de la lecture de venir avec leurs accueils de loisirs ou avec leurs parents et de découvrir la littérature de jeunesse par le biais du jeu.
Les enfants entre dans l'univers d'un auteur sans forcément s'en rendre compte.
Vous la connaissiez, cette dame, Hélène? Vous savez qu'elle écrit des livres, en vrai?
Non, moi je savais pas, mais je trouve que c'est super.
Le reportage d'Ilana Morioussef au parc départemental Georges Valbon à La Courneuve. Partir en livre, c'est aussi des événements gratuits partout en France jusqu'au 21 juillet. Allez, de la musique mexicaine pour un adieu, pour accompagner la dernière des Coccinelles. La voiture iconique née dans les années 30 tire sa révérence. La dernière Coccinelle est sortie aujourd'hui des chaînes de montage de l'usine Volkswagen du Mexique. Elle n'aura pas résisté à la concurrence des SUV. C'est ce que va désormais produire l'usine de Puebla. La météo.
La météo avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Les prévisions de Météo France. Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Nuages et éclaircies demain.
Oui, on aura une dégradation nuageuse qui concernera le nord-ouest et le nord de la Seine le matin avec parfois quelques gouttes. Et puis l'après-midi, c'est près des frontières du nord qu'on retrouvera ces nuages avec des averses. Partout ailleurs, un ciel partagé entre soleil et nuages. Un soleil plus généreux en allant vers le sud et puis du vent autour de la Méditerranée.
Peu de changements pour les températures.
Souvent 13 à 19 degrés le matin, jusqu'à 22 près de la Méditerranée. L'après-midi, 21 à 24 degrés près de la Manche, 24 à 29 sur les autres régions du Nord. Il fera plus chaud dans le Sud, 28 à 33 degrés et jusqu'à 35 à 36 pour le Sud-Est.
Élodie Callac, Météo France, merci.